Nous prenons la parole dans Jean 12. Jean 12. La Bible dit dans Jean 12, au verset 23, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Amen. Jésus-Christ explique qu'il doit mourir, parce que s'il ne meurt pas, il ne va pas porter du fruit. Il explique, il donne la comparaison avec un grain de blé. Il dit, si le grain de blé, le blé qui tombe à terre, n'est pas enfoui pour mourir, il ne va pas porter du fruit. Jésus dit qu'il doit mourir pour porter du fruit en abondance. Mais la mort, ce n'est pas une chose facile. Jésus-Christ lui-même a eu une certaine appréhension de la mort. Il a eu une sorte de peur en lui par rapport à ce qu'il devait subir. Et il dit, Seigneur, est-ce que je dois te dire d'arrêter le processus? Jésus lui-même donne la réponse. Mais non! Puisque si je suis venu sur la terre, c'est pour ce processus-là. C'est pour ce plan-là. Dans ce cas, il aurait valu mieux que je ne vienne pas. Si je suis venu, c'est pour que ton plan, Père, s'accomplisse. Et ton plan, c'est que je meure pour le salut de l'humanité. Alors, Père, ne recule pas. Je vais aller jusqu'au bout. Il arrive un moment dans la vie, le plan de Dieu devient comme amer, devient comme compliqué, difficile. Mais vaut mieux rester dans le plan de Dieu. Mon thème, c'est cela. Entrer et rester dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu vaut mieux que tout. Jésus était dépassé. Parce qu'il allait, il était plutôt attristé. Il souffrait de ce qu'il allait endurer dans les heures qui allaient suivre, dans les jours qui allaient suivre. Il allait être rejeté, abandonné par ses disciples. On allait lui cracher dessus. On allait le crucifier. On allait se moquer de lui. Et nous, qui sommes des êtres faibles, on peut comprendre encore qu'on se moque de nous. Qu'on nous tape, qu'on nous piétine. Parce qu'il y a des moments où nous n'avons pas de force vis-à-vis des gens qui nous font cela. Mais Jésus avait de la force. Il pouvait déployer son armée. Quand Pilate dit à Jésus, « Tu ne sais pas que je peux te tuer », Jésus lui dit, « Tu n'aurais pas cette autorité s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » Jésus était conscient qu'il avait le dessus sur Pilate. Mais il fallait, à cause du plan de Dieu, il fallait qu'il se laisse faire. Le plan de Dieu était devenu difficile en ce moment-là. Mais le plan de Dieu, c'est le meilleur. Il faut rester dans le plan de Dieu. Parce que Jésus savait qu'il allait ressusciter. Il savait que le plan de Dieu ne s'arrêtait pas à la mort, ne s'arrêtait pas à la souffrance de la croix. Le plan de Dieu allait continuer jusqu'à mener un miracle nouveau qui n'existait pas autrefois. C'était la résurrection et Jésus-Christ allait être le premier né d'entre les morts. Il savait la fin. Mais dans certaines étapes, le plan de Dieu peut devenir compliqué, difficile pour l'homme et pousser l'homme dans l'orgueil, dans le refus de souffrir. Vous savez, on a lu le verset précédent. Jésus dit, quiconque aime sa vie, la perdra. Dans l'amour pour sa propre vie, on peut refuser le plan de Dieu parce que le plan de Dieu est en train de t'humilier. Le plan de Dieu est en train de te rabaisser. Le plan de Dieu est en train de faire de toi quelqu'un de bloqué. Vous savez, Jésus était là à regarder les gens lui cracher dessus et se moquer de lui et il ne pouvait rien faire. Ça fait de lui quelqu'un d'inapte, quelqu'un de faible. Mais c'était le plan de Dieu. Le roi David a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Une heure dans le plan de Dieu peut être tellement difficile, peut être tellement humiliant qu'on peut faire la gaffe de sa vie. Refuser cette heure-là. La parole aujourd'hui veut nous dire, mon frère et ma sœur, une heure dans le plan de Dieu, accepte cela. Il ne faut pas voir le plan de Dieu comme quelque chose toujours lié à 30 ans, 50 ans, 40 ans. Oui, le plan de Dieu c'est pour 30 ans, 40 ans, mais il dépend de chaque heure, de chaque minute, comment tu négocies cela. Tu peux retarder ce plan comme tu peux permettre qu'il s'accomplisse et que tu te retrouves dans la gloire. Jésus a dit, je préfère le plan de Dieu. Je ne veux pas le retarder. David a dit, je préfère un jour avec Dieu, en obéissance à la parole, plutôt que beaucoup de temps ailleurs, dans une impression de réussite, dans une impression de succès personnel, mais tu es hors du plan de Dieu. Et la Bible dit, on récoltera ce qu'on a semé. Vaut mieux le plan de Dieu, bien-aimé. C'est le meilleur. C'est ce qui nous garantit la prospérité, la paix, la joie. Même si nous ne voyons pas cette prospérité clairement ici sur terre, nous la verrons au ciel. Aujourd'hui, où est Michael Jackson? Il a vendu des millions d'albums. Où est-ce qu'il est maintenant? Où est Mike Tyson? Où sont-ils ces gens-là? Ils sont perdus. Ils n'ont plus rien. Mais celui qui est dans le plan de Dieu, la Bible dit qu'il ne manquera jamais de rien. Et il est sûr que après sa mort, sa vie va porter du fruit. Et déjà sur la terre, il y aura des fruits. Et après sa mort, ça va porter encore des fruits davantage. Le plan de Dieu, bien-aimé, est le meilleur. Jésus a dit, je préfère ton plan. Ne retire pas. Nous lisons Esther au chapitre 4, au verset 10. Esther 4. Esther 4, verset 10. Esther chargea Attac d'aller dire à Mardoché. Esther 4, j'attends que tout le monde trouve. Esther chargea Attac d'aller dire à Mardoché. Au verset 10. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois mourir, je mourrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Je vais donner le contexte. Esther est une orpheline recueillie par son oncle Mardoché quand elle était bébé. Son oncle élève Esther. Ils étaient à Suse, la capitale de l'Empire perse. Ils étaient en déportation. Ils étaient des étrangers, des immigrés, comme on dit, dans ce pays-là. La reine de ce grand empereur qui était Assuérus, savait à un certain moment, l'orgueil monte jusqu'à la tête. Cette reine-là a voulu rivaliser contre son propre mari, qui était le grand empereur. Son mari l'a appelée pour qu'elle se montre devant les invités. Elle a refusé. Alors, son mari s'est énervé. Il a dit qu'il allait épouser une autre femme. On a fait l'appel à toutes les belles filles de se présenter. C'est ainsi que Esther est venue aussi se présenter. Il y avait toutes sortes de filles qui se sont présentées. Mais c'est Esther qui a été choisie pour être la femme du roi. Pas n'importe quel roi. C'était le plus grand royaume de l'époque, de cette époque-là, l'Empire perse. Esther devient la femme du roi. Mais Esther était juive. Le roi, parce que sa femme lui a manqué de respect, a décidé de rendre les choses difficiles par rapport aux femmes ou par rapport aux gens qui l'entourent. Il a dit, pour que quelqu'un vienne lui parler, c'est à lui le roi de l'inviter. Si le roi ne t'invite pas et que tu entres toi-même aller le voir, alors il y aura 2 possibilités. Soit on te tuera, soit on te laissera la vie et il t'écoutera. C'est en fonction du geste qu'il va faire avec son sceptre d'or. S'il te tend le sceptre, eh bien, là tu vas vivre et tu parleras. Mais s'il ne le fait pas, eh bien, tu es considéré comme mort, on t'amène, on te tue. Maintenant, Esther est à l'aise. Elle est devenue une reine. Elle n'avait pas prévu cela. Elle se retrouve reine. Elle qui était orpheline, elle se retrouve reine. Elle est contente. Vous savez, quand il y a des bénédictions, on est content. Quand les choses marchent, on est content. Quand ça va dans notre sens, on est content. Et Esther était aussi contente. Et puis un jour, il y a eu un complot contre les Juifs. Le premier ministre a décidé d'éliminer tous les Juifs, de tuer tous les Juifs. La famille, donc, physique d'Esther. L'oncle d'Esther envoie ce message à Esther. Esther, nous, on veut nous éliminer toutes. Tous. On veut éliminer toute la tribu. On veut nous éliminer même dans les provinces, partout, pas seulement dans la capitale, mais partout, on veut éradiquer le peuple juif, Esther. Toi qui es reine, fais quelque chose. Alors, c'est là que les choses deviennent difficiles. Donc avant tout marchait, elle était devenue reine. Les choses allaient dans son sens. C'était bon. Là maintenant, on lui demandait d'aller voir le roi pour plaider en faveur des Juifs. Et vous savez, la loi que le roi avait instaurée, si le roi te tend le sceptre, tu vis. S'il ne te tend pas le sceptre, tu meurs. On te tue. Esther répond à Mardoché. Esther lui dit, mais Mardoché, mais moi ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas convié. Je ne peux pas de moi-même aller le voir, parce que si je vais le voir, ben je risque ma vie. On se souvient du verset de Jésus, celui qui cherche à sauver sa vie, son honneur, va perdre cela. Esther dit, mais je risque ma vie. Je risque ma vie. Et c'est là que, bien-aimé, on se rend compte de l'égoïsme de l'homme. Nous sommes tous humains. À un moment, un homme peut accepter de sacrifier tout le monde pour son honneur, pour ses propres intérêts. Et là, en ce moment, Esther avait le dossier des Juifs entre ses mains. Des milliers de personnes. Elle dit, mais moi, je risque ma vie. Qu'est-ce qu'une vie comparée à des milliers de vies? C'est là qu'on voit l'égoïsme de l'homme. Il dit, mais moi, mais oui, mais toi, regarde tout ce peuple-là. Alors, Mardoché envoie dire à Esther, après la réponse d'Esther. Il dit, mais Esther, Esther, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as oublié d'où tu viens. Tu as oublié. Verset 13. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Parce qu'Esther dit, je risque ma vie. Donc c'est comme si elle pouvait échapper. Mardoché dit, mais ce n'est pas parce que tu es dans la maison du roi que tu vas échapper. Verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Alors Mardoché dit, mais Esther, nous les Juifs, nous avons été secourus par notre Père, par notre Dieu. Donc, que ce soit par toi, que ce soit par quelqu'un d'autre, nous serons protégés. Nous serons délivrés. Mais toi, tu refuses le plan de Dieu pour toi. En refusant le plan de Dieu, toi et ta famille, vous périrez. Parce qu'en dehors du plan de Dieu, c'est la mort. C'est là que Mardoché lui dit, mais Esther, tu penses que tu es devenue reine par hasard? Tu n'es pas devenue reine par hasard. C'était peut-être pour nous protéger de ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu ayant vu ça à l'avance, il a fait en sorte que tu deviennes reine. Ainsi, aujourd'hui, nous les Juifs, nous pouvons être sauvés parce que Dieu avait prévu que toi tu sois là pour nous sauver. Ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. C'est là que la conscience d'Esther se réveille, se dit, c'est vrai. Comment moi qui étais une orpheline, non seulement orpheline mais juive, je deviens reine dans un pays étranger. Donc il y a la main du Très-Haut qui agit sur moi pour que cela devienne ainsi. Et maintenant c'est lui qui m'a mis là. Je ne peux plus me retirer de lui. Je vais aller jusqu'au bout dans son plan. Et Esther dit, j'ai compris.
priez pour moi. Jeûnez 3 jours à sec. Moi aussi, je vais jeûner et j'irai voir le roi. Si je dois périr, ah, c'est beau. Et elle dit, si je dois mourir, mais je mourrai. Bien-aimé, vaut mieux, s'il faut mourir, mourir dans le plan de Dieu. L'apôtre Paul mourait tranquillement et disait, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Il ne disait pas, j'ai fait des exploits. En quelque sorte, en disant, j'ai gardé la foi et j'ai combattu le bon combat, il veut dire que j'ai été avec le Seigneur, je lui ai obéi, j'ai été correct. Samuel, avant de mourir, il dit aux Juifs, il dit, écoutez, moi je vais mourir là maintenant. Mais qui peut dire aujourd'hui que je lui ai demandé quelque chose? J'ai pillé qui que ce soit? Non. Devant vous tous, je me suis comporté selon la volonté de Dieu. Le plan de Dieu est le meilleur. On doit se poser la question, ce que je suis en train de faire, ce que je vis, mes projets, sont-ils dans le plan de Dieu ou pas? Parce que c'est dans le plan de Dieu que se trouve la vie. Le plan du diable peut donner pendant un temps une sorte de pause où on croit qu'on est bien. Et Esther pouvait croire qu'étant dans le palais royal, quand on va tuer tous les Juifs, elle sera protégée. Mais qui dit que c'était vrai? Parce que par la suite, on va voir que le premier ministre lui-même va être tué. Qui connaît son avenir? Personne. Le plan du diable peut te donner une sorte de force personnelle. Croire que tu as l'argent, tu as la vie, tu as encore des jours devant toi. Croire que tu es fort. Croire que tu es en sécurité. Esther pouvait croire qu'elle était en sécurité, mais elle n'était pas en sécurité. Le psaume 33 dit, ce n'est pas une grande armée qui protège le roi. John Fitzgerald Kennedy est mort. Pourtant, il était président des États-Unis. On l'a tué. Pourtant, ce n'est pas fréquent qu'on tue des présidents comme ça. Mais le président des États-Unis a été tué. Ronald Reagan, on a essayé de le tuer. Il y a des balles qui l'ont atteint. Qui l'ont presque atteint. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. C'est Dieu qui sauve. Esther comprend et dit, je suis prêt à risquer ma vie, mais en accomplissant la volonté de Dieu. C'est Dieu qui m'a mis reine, eh bien je vais accomplir sa volonté. Bien aimé, la Bible dit dans Jérémie 29 qu'on va lire. Jérémie 29. Au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Mais il peut y avoir des moments de crise. Il peut y avoir des moments de difficulté. Dans ces moments de difficulté, comment nous devons gérer nos vies? Nous devons rester dans la volonté de Dieu. Nous devons rester dans le plan de Dieu. C'est important si nous voulons assurer un avenir agréable. Esther s'est retrouvée dans des moments difficiles. On lui demande de risquer sa vie pour les autres Juifs. Bien sûr, sans certitude du résultat. Elle risque sa vie. On lui demande en quelque sorte de faire la volonté de Dieu. On ne lui dit pas que ça marchera ou pas. On dit, fais-toi la volonté de Dieu. Tu étais là, tu étais orpheline, tu étais rien du tout. Dieu t'a fait reine, maintenant fais la volonté de Dieu. N'oublie pas celui qui t'a établi reine. Bien-aimé, souviens-toi d'où tu viens. Comment Dieu t'a sauvé alors que d'autres sont morts. Tu as des amis. Aujourd'hui, l'âge que certains ont, ils ont déjà des amis qui sont morts. À mon âge, j'apprends qu'il y a des amis qui sont morts. Pour moi, je trouve ça comme impossible, mais c'est la réalité. Il y en a qui sont morts. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi des bienfaits de Dieu. Et maintenant, quand Dieu va te dire, accomplis ma volonté, reste dans le plan, tu décides que ce que tu es devenu, c'est toi. Bien-aimé, faisons attention. Restons dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu est le meilleur. Esther est restée dans le plan de Dieu. Elle a risqué sa vie. Nous connaissons la suite. C'est le premier ministre qui voulait tuer tous les Juifs. C'est lui qui a été tué. Esther a été bénie. Le peuple juif a été sauvé. Et l'oncle d'Esther est devenu le premier ministre. Quelle joie! Tu es reine et ton oncle premier ministre. Alors que si elle avait résisté, peut-être que beaucoup de Juifs seraient morts, mais pas tous. Mais elle-même, Esther, un jour ou l'autre, allait être trahie et elle allait mourir. Mais là, maintenant, elle a tout le monde. Et les Juifs, et son oncle premier ministre, et le roi. Elle avait maintenant tout. Et elle était bénie. Elle avait éliminé un danger pour le royaume. C'était ce premier ministre-là. Nous connaissons la suite avec Jésus. Le troisième jour, il est ressuscité. Il a dit aux disciples qui étaient à Emmaüs, qui étaient tristes, qui a dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Ils disent, mais tu n'as pas appris Jésus, le prophète, qui était puissant en parole et en action. Nous, on a cru que c'est lui qui allait nous libérer. On l'avait suivi. Mais à un certain moment, il s'est fait attraper. On l'a tapé, on l'a massacré, et puis on l'a crucifié. Et là, voici le troisième jour. Nous sommes dans la désolation. Ah, Jésus dit, mais vous les humains, vous êtes lents à croire ce qui est écrit. Vous refusez ce qui est écrit. Et nous allons donner la solution, comment entrer dans le plan de Dieu. Marcher selon ce qui est écrit dans la Bible. Il dit, vous refusez de croire ce qui est écrit. Vous suivez les influences, vous suivez les yeux. Parce que vous avez vu que le Messie a été attrapé, crucifié. Vous refusez de croire ce qui est écrit. N'est-ce pas qu'il est écrit que le troisième jour il ressusciterait? Et la Bible dit, il est écrit dans Luc 24, Jésus a commencé à leur expliquer ce qui était dit de lui dans l'Ancien Testament, comment il devait souffrir pour le péché du peuple et ensuite ressusciter. Et la Bible dit, quand ils ont partagé le pain, leurs yeux s'ouvrirent et Jésus a disparu. Ils ont dit, mais c'était le Seigneur. Il est ressuscité. Ils sont partis dans la joie dire qu'il était ressuscité. Jésus leur explique que ses souffrances, c'était le plan de Dieu. Ça, le processus de la venue de Jésus, c'était le plan de Dieu. Et le plan de Dieu n'échoue jamais quand on est obéissant. Et lui, Jésus, a respecté le plan de Dieu. Et il a vu la gloire de Dieu, bien-aimé. Le plan de Dieu, ce n'est pas ce que les hommes disent. Ce n'est pas ce que les hommes font comme applaudissement. Qui n'a pas applaudi Michael Jackson? Il a fini où? Qui n'a pas applaudi Maradona? Il a fini où? Drogué? Qui n'a pas applaudi Mike Tyson? Il a fini où? Pardonnez la pitié tellement il se faisait taper. Bien-aimé. Le plan de Dieu, c'est un plan solide. Ce n'est pas comme le plan de Satan. Il te donne un succès à un moment et la chute est brutale. Le plan de Dieu, c'est quelque chose qui doit tenir éternellement. C'est pourquoi il le construit sérieusement. Il est facile de construire un roseau. Le roseau, en quelques jours, ça naît. Hein? Mais on peut écraser ça facilement. Mais un baobab, ça prend du temps. Un baobab, ça peut prendre plus de 50 ans pour être construit. Mais maintenant, toi, va renverser, va marcher sur le baobab. Il est bien planté, bien solide. Le plan de Dieu, c'est celui-là. Il y a un processus. Il faut le respecter. Si tu veux faire comme le roseau, sortir vite pour dire je suis une plante, que les humains voient que tu es une plante, il n'y a pas de problème. Mais on attend quand les phacochères, les sangliers vont passer par là. Pauvre roseau, tu es écrasé. Mais si tu acceptes le plan de Dieu, ça peut te paraître compliqué. Mais oui, mais moi, on ne me voit pas encore. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne cherche pas à ce qu'on me voit. Je cherche à obéir à mon maître. J'aime Philippiens 3 où Paul dit, j'ai tout renoncé pour mon Seigneur Jésus. J'ai tout renoncé. J'aime Jésus. J'ai tout renoncé. Paul ne dit pas, j'attends qu'il me donne. Il dit, moi j'ai tout renoncé. L'amour pour Jésus. Pourquoi servir Jésus? Parce qu'on l'aime. Pas parce qu'on attend d'être pasteur, on attend d'être nommé qui que ce soit. Parce qu'on attend une reconnaissance. Mais parce qu'on l'aime, c'est ça l'amour. Paul dit, j'ai renoncé à tout à cause de mon amour pour lui. Et quand on est dans cette attitude-là, on accepte le plan de Dieu. Dans 2 Corinthiens 6, Paul dit, nous avons, je vais lire cela, 2 Corinthiens 6. Verset 3. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience. Donc le mot important, c'est patience. Par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Paul dit, nous nous rendons serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les rébellions, dans les difficultés, dans les veilles, dans les prières, dans les jeûnes. Il ne dit pas que nous cherchons quelque chose. Il dit, on nous considère comme pauvres, alors qu'en réalité, c'est nous qui enrichissons les autres. On nous considère comme mourants, mais nous vivons. Pourquoi Paul dit, nous vivons? Il ne dit pas que ceux qui le voient comme mourant ont tort dans le sens humain. Ils voyaient Paul en prison, malade. Pour eux, Paul était en train de mourir. Mais Paul, pour lui, il vivait parce qu'il ne dépend pas du corps physique, il dépend du plan de Dieu. Il savait que le plan de Dieu fonctionnait pour lui. Même si les autres voyaient ainsi, lui connaissait le plan de Dieu pour lui. Le plan de Dieu, bien-aimé, te permettra d'aller jusqu'au bout de ce combat de la foi que nous menons sur terre. C'est un combat très difficile. Mais si tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu es comme un coq, comme un canard qu'on est en train de préparer pour faire le poulet fumé, ou un mouton qu'on est en train de préparer, mettre dans les cajots pour qu'on achète à Carrefour. Vous savez, qui a déjà visité les endroits où on prépare les poules, les coqs, on coupe, bien aimé, ils sont comme dans une sur un tapis. Tous y vont, petit à petit, ils arrivent dans un appareil qui enlève les ailes, ils arrivent dans un appareil qui fait ceci, qui les mouille, jusqu'à ce qu'ils sont préparés, emballés, toi tu vas acheter à Carrefour. Ce coq-là, pendant qu'il est sur le tapis, c'est la belle vie. Ah, je suis dans un truc moderne, ça n'existe pas dans la nature. Mais il ne sait pas que ça l'amène à la mort. Peut-être qu'il va voir un autre coq qui, lui, il est dans la maison. Il dit, mais celui-là, il ne profite pas des machines ici. Mais toi, là où tu es avec tes machines, là, ça t'amène où? À la mort. Nous allons lire psaume 49. Hors du plan de Dieu, c'est la mort. Psaume 49. Écoutez ceci, vous tous peuples, prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrai-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la force, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Je commence verset 13. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Quelle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Voilà ce que dit la parole. L'homme qui est en honneur, l'homme qui croit qu'il est fort, et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qu'on égorge. Il a beau être ingénieur, il a beau être savant, il a beau être multimillionnaire. Hier, j'ai appris que Yves Rocher, les gens qui mettent des produits de beauté, Yves Rocher est mort à 79 ans. Mais est-ce que ces produits de beauté l'ont sauvé? Les antirides, est-ce que ça l'a sauvé? Ça ne l'a pas sauvé. Moi, j'étais étonné, tiens, mais Berlusconi est encore vivant à 80 ans, lui, l'autre qui a plus de produits de beauté meurt à 79 ans. Mais oui, malgré les produits de beauté, c'était une bête qu'on égorge. Lui, il mettait les antirides, mais il ne savait pas qu'il était sur le tapis roulant, qu'il a mené à l'abattoir. Et c'est ce que Psaume 49 dit, les humains qui se prennent en honneur sont sur le tapis roulant. Nous, on voyait Mitterrand faire des discours à la bolle, démocratie en Afrique. Il était sur le tapis roulant. Mais toi et moi, on ne voyait pas. Nous, on le voyait en honneur. La Bible dit, l'homme qui est en honneur, en réalité, est semblable à une bête qu'on égorge. Pour Dieu, c'est une bête qu'on égorge. Parce que Dieu n'a pas... Il est grand. Il voit... Pour nous, 10 ans, c'est beaucoup. Pour Dieu, 10 ans, c'est pas beaucoup. Pendant qu'il est président, Dieu voit comment il est sur le tapis roulant. Bien-aimé, l'erreur que beaucoup commettent, ils pensent que le tapis roulant, c'est ça la vie. Avoir des enfants, se marier, un bon boulot. Parfois, une petite maîtresse à côté. Eh bien, ils pensent que ça, c'est la vie. Mais Dieu appelle ça le tapis roulant. Ils sont en train d'être abattus. Et ce qui est grave, c'est que l'histoire ne va pas s'arrêter là. Après la mort, ils sont face à l'éternité. Où passeront-ils l'éternité? C'est pourquoi Dieu appelle ça, ils sont semblables à des bêtes qu'on égorge. C'est des gens qui passeront l'éternité en enfer, en train de brûler, sans que ça s'arrête. C'est grave, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible dit, tu te crois vivant, mais tu es mort. Parce que après ta mort, tu iras où? Tu es mort, parce que ce n'est qu'une une histoire de temps. Ce n'est qu'une histoire de temps. Mais celui qui est en Jésus est vivant. La terre devient pour lui comme le ventre de la maman pour un bébé. Il est en préparation pour sortir dans l'éternité auprès de Dieu. Mais celui qui n'a pas Dieu, celui qui ne marche pas dans le plan de Dieu, la terre devient pour lui le couloir de la mort. Il attend le jour où il passera en enfer. C'est grave quand Dieu regarde ça. Il dit, mais il est en honneur, mais il est dans la salle d'attente pour aller dans la perdition éternelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort riche, avec des milliards, qu'il a réussi. D'abord, il faut connaître sa vie, connaître sa famille, connaître les contrats que cet homme a signés. Il y a des gens qui sont députés, qui sont ministres, mais qui ne mangent pas la viande. Pendant que toi, tu manges le grec à côté, lui, il ne peut pas manger un grec ou bien un steak haché. Il mange que les légumes parce qu'il a signé un contrat magique où il ne peut manger que des légumes. Et toi, tu vas le regarder, tu vas l'envier. Il est mort. Pendant que toi, tu envies celui qui semble riche, en réalité, tu te trompes. Tu ne sais pas que lui, pendant la nuit, il ne dort pas. Il est obligé d'aller dans des cimetières, faire des sacrifices et boire du sang humain. Pendant que tu envies quelqu'un, tu ne sais pas qu'il prend des antidépresseurs parce qu'il ne se sent pas bien. Le meilleur choix, c'est le plan de Dieu. En dehors du plan de Dieu, on est sur le tapis roulant. On meurt à petit feu. On ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend même pas compte. Il paraît que quand on pose une grenouille dans une eau, dans un récipient, qu'on chauffe petit à petit, la grenouille ne sent pas la différence, elle ne saute pas. Et puis va venir un moment où elle est déjà brûlée, elle ne peut plus sauter, elle est prise au piège. Par contre, si on avait chauffé brutalement, elle allait sauter tout de suite. Et c'est comme ça qu'elle peut mourir. Et beaucoup sont chauffés comme ça petit à petit par le diable. Ils croient que ça y est, ça va. Et puis c'est trop tard, tu ne peux plus sauter. C'est ça la technique du diable, te faire croire que tu as encore le temps. C'est faux. Bien-aimés, rentrons dans le plan de Dieu et restons-y au nom de Jésus-Christ. Le plan personnel, en réalité, c'est le plan du diable de te rendre distrait. Le plan de Dieu t'assure l'éternité au ciel et t'assure sa protection sur terre. T'assure, bien-aimé, la réussite dans tout ce qu'il te demande de faire. Il y a une sœur qui avait une école biblique en Chine, à l'époque où c'était encore autorisé, avant la venue des communistes. Elle allait partir en vacances quand on vient lui annoncer que l'État ne compte plus lui louer les locaux l'année prochaine, l'année qui allait venir, puisque c'était les vacances, parce que l'État va récupérer ces locaux-là. Et comme les gens avaient une certaine éducation de prière et de jeûne, les gens pensaient que la sœur allait annuler ses vacances, se mettre en prière et en jeûne pour qu'on lui redonne les salles-là. Non, la sœur a dit aux gens qui lui annonçaient la mauvaise nouvelle, les chrétiens qui lui annonçaient cette mauvaise nouvelle, elle leur a dit, je m'en vais faire mes vacances. À mon retour, on verra. Mais disent, mais à ton retour, il risque d'avoir plus d'école. C'est maintenant qu'il faut faire les démarches. C'est maintenant qu'il faut lutter. Elle leur a dit, Dieu m'avait dit qu'il m'avait donné cette place-là. Moi, je pars. Les gens ont dit, mais c'est pas possible. Au lieu de jeûner, de prier, elle s'en va. Et quand elle est revenue, l'État lui a redonné. Sans discussion, bien-aimée. Quand tu sais que tu es dans le plan de Dieu, tu n'as pas peur. Jésus-Christ était dans la barque, en train de dormir. La tempête souffle. Les vagues montent. Les disciples commencent à crier, alors que c'était des pêcheurs professionnels. Hein? Des hommes de mer. Ils paniquent. Mais Jésus est en train de dormir tranquillement. Pourquoi Jésus était dans le plan de Dieu? Tranquillement, il dort. Psaume 127 dit ceci, hein. Celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui garde la ville sans Dieu garde en vain. Et dit, pendant que son bien-aimé dort, il lui donne ce que toi tu obtiens par beaucoup de souffrances. Jésus était en train de dormir pendant que les autres s'agitaient. Mais ils finissent par réveiller Jésus, comme les gens qui n'ont pas la foi. Ils vont venir par t'agiter. Mais réveille-toi, tu ne vois pas la difficulté. Réveille-toi, tu ne vois pas que tu es critiqué. Réveille-toi, tu ne vois pas que... On dit, mais ce n'est pas mon problème. Moi, je suis dans le plan de Dieu. Dieu s'occupe de ça. Dieu a promis qu'il s'occupait de son plan. Ce que lui demandait à faire, il s'en occupait aussi en même temps. Il donne le salut et il le conserve et il aide à ce que ça aille jusqu'au bout. Jésus s'est réveillé et leur a dit, mais monsieur, mais vous n'avez pas de foi. Pourquoi vous avez eu peur alors que vous avez le plan de Dieu dans votre barque, Jésus lui-même de Nazareth, le plan de Dieu. Fait cher. C'est lui le plan de Dieu. Jésus dit dans Jean 15, demeurez en moi. Quiconque demeure en moi est dans le plan de Dieu. Rien ne peut lui arriver, bien-aimé. Le plan de Dieu, demeurez en Jésus. Jésus a dit à la tempête, silence, tais-toi. Ça s'est calmé, bien-aimé. Amen. Restons dans le plan de Dieu. Restons dans le plan de Dieu. Si tu es dans le plan de Dieu, les avions tomberont, mais ton avion ne tombera pas. Si tu es dans le plan de Dieu, il est écrit dans Psaume 121, il te gardera de tout mal. Mais il y a certaines difficultés qu'on doit subir pour notre propre purification. Parce que l'homme est orgueilleux. Quand tout lui réussit, il devient orgueilleux. Alors Dieu va permettre que certaines choses ne réussissent pas pour te faire comprendre que tu es petit. Dieu va te faire passer par un processus que toi, tu n'acceptes pas. Jésus dit à Pierre, quand tu étais petit, tu te mettais toi-même la ceinture, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture. Il t'amènera où tu ne voudras pas. Quand tu seras mature, voilà ce qui va t'arriver. Bien-aimé, le plan de Dieu, ce n'est pas forcément les choses qui nous arrangent. Puisque Dieu dit dans Ésaïe 55 que nos pensées ne sont pas ses pensées à lui. Forcément, son plan paraîtra parfois ne pas nous arranger et n'être pas son plan. C'est faux. Nous, en ce moment-là, on doit prier, crier à Dieu, lire la Bible, chercher à comprendre est-ce que je suis dans le plan de Dieu ou pas. Si vous lisez la parole, vous priez, vous vous rendez compte que maintenant, moi j'ai obéi à la parole, je fais ce que le Seigneur m'avait dit, je suis dans son plan. Donc ce qui m'arrive, le fait qu'on m'accuse et qu'on m'amène en prison, c'est le plan de Dieu. J'y vais tranquillement. Bien-aimé, Paul, on lui a annoncé qu'il allait être arrêté à Jérusalem. Il dit, mais oui, mais d'accord. Les visions, les frères et sœurs prophétisaient, Paul, on va t'arrêter à Jérusalem. Paul dit, mais oui, je suis prêt à mourir pour Dieu. Donc j'irai à Jérusalem. Du moment que c'est son plan, même si on va m'arrêter, j'irai là-bas. Accomplir le plan de Dieu, bien-aimé. Dans le plan de Dieu, il savait que c'est là que se trouvait son bonheur. Ce n'était pas en fuyant la prison, ce n'était pas en fuyant Jérusalem que se trouvait le bonheur. Dans Ésaïe 30 et dans Jérémie 30, il est écrit « Malheur à ceux qui vont chercher le secours en Égypte, secours dans les méthodes du monde, parce qu'ils ne supportent pas le plan de Dieu. » On a tendance à vouloir chercher du secours dans le monde. Et dans le monde, c'est-à-dire un comportement pour répondre au problème, un comportement qui n'est pas biblique. Malheur à ceux qui vont chercher du secours en Égypte. Il faut chercher du secours dans le Seigneur. Comment rester dans ce plan, bien-aimé? Comment y entrer en se convertissant? Commence par te convertir. Commence par mourir à toi-même. Accepter ta mort. La conversion, c'est la mort. Et une résurrection. Et la résurrection, c'est la vie de Jésus-Christ. Donc tu dois mourir par rapport à ce qui concerne l'homme, par rapport à ce qui concerne tes intérêts. Parce que ce n'est pas d'une mort physique dont on te parle. Parce que sinon, moi qui parle, je serai mort physiquement. On parle de la mort qui consiste à
a considéré ses intérêts comme étant annulés, a considéré ses projets anciens comme étant annulés. Tu meurs, ta logique, tes techniques, ça meurt. Maintenant, tu vas vivre la vie de Jésus-Christ. C'est ça la conversion. Puisque de toute façon, ceux qui ont utilisé tes techniques, ceux qui ont été dans ta logique, tu les as vus comment ils ont fini. Ce n'est pas la peine de suivre cela. Maintenant, tu dis, je meurs. Maintenant, c'est Jésus qui va vivre en moi. Après tout, c'est Dieu qui m'a créé. Si lui vit en moi, c'est lui qui me mènera au but à coup sûr. C'est ça, la conversion. Tu acceptes de mourir pour vivre la volonté de Dieu. Et si tu es converti, comment entrer et rester dans le plan de Dieu? C'est obéir chaque jour à la parole de Dieu. Ne t'attends pas à ce que, forcément, un jour en ouvrant une chaîne de télévision, on te montre quel sera ton parcours. Tu iras en Suède, puis en Norvège, puis en Nouvelle-Calédonie. Il y en a à qui on a montré cela, mais ce n'est pas la manière usuelle de Dieu de faire. La manuelle usuelle de Dieu de faire, c'est l'obéissance à sa parole. Tu obéis à la parole de Dieu. Sache que tu es dans le plan de Dieu. Ne cherche pas à ce que tu vois forcément une télévision avec ton parcours. Tu obéis à la parole de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Pose-toi la question. Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Les circonstances que je suis en train de traverser, est-ce que dans ces circonstances, je suis en train, ma réaction, c'est l'obéissance à la parole ou pas? Si c'est l'obéissance à la parole, tu es dans le plan de Dieu. Jésus-Christ s'est accroché au plan de Dieu, vous savez, jusqu'à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que le plan de Dieu, c'était que Jésus tienne bon, il soit vainqueur du mal par le bien. Jésus pouvait dire aussi, attendez, là vous avez exagéré, je suis quand même fils de Dieu, je vous maudis. Non, il a dit, Père, pardonne. Le plan de Dieu, c'était que Jésus manifeste l'amour. Et il l'a fait jusqu'au bout, malgré la pression, jusqu'au bout. Le plan de Dieu, c'est quand tu obéis à la parole, bien-aimé. Beaucoup de gens ont des visions et des songes. Mais tout doit correspondre à la parole. Est-ce que ça te conduit à obéir à la parole? Si ce que tu as comme vision et songe ne te conduit pas à obéir à la parole, il y a un problème. Si tu les as de temps en temps, je peux comprendre. Mais si tu les as régulièrement, ce n'est pas Dieu qui parle. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. D'un côté, parler en vision, en songe, parfois des choses vraies. Et de l'autre côté, un comportement qui n'est pas conforme à la parole, il y a un problème. Celui à qui Dieu parle par vision et songe doit aimer aussi la Bible. S'il n'aime pas la Bible, s'il n'aime pas la parole, s'il ne s'attache pas à la parole, il y a un problème, soit de conversion, soit de tromperie par des esprits mauvais. Le plan de Dieu, c'est la Bible. Tu as marché selon la Bible, tu es là, dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas de la voyance, comme certains espèrent. Qu'on leur dise, tu iras en Suède ou en Nouvelle-Calédonie. Quand Jackie Poulinger est parti à Hong Kong, on ne lui avait pas dit par Dieu, va à Hong Kong. Dieu lui a dit, pars. Elle est partie par obéissance. C'est ça le plan de Dieu. Obéissance à la parole, obéissance à la voix du Saint-Esprit. Quand tu es conscient que le Saint-Esprit, nous sommes au deuxième point, obéissance à la voix du Saint-Esprit. Tu dois être conscient de ce que l'Esprit t'a dit. Il y a des choses qui ne sont pas directement dans la parole, comme le fait que tu ailles en Chine ou que tu ailles en Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas écrit dans la Bible, comme le fait que, par exemple, tu ailles en mission quelque part. Ça n'est pas écrit. C'est des choses que tu vas recevoir par l'esprit. Mais est-ce que ce que tu reçois en esprit concorde avec les règles de Dieu? Concorde avec la façon de Dieu de travailler? Parce que quand Dieu travaille avec nous, il travaille avec nous en église, dans le corps du Christ. Est-ce que, comme nous voyons dans l'acte des apôtres, quand Paul partait en mission, il y a des gens aussi qui voyaient ça? Quand, en acte des apôtres, chapitre 13, la Bible dit, l'Esprit a parlé aux gens, ils ont prophétisé. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Quand Paul devait être arrêté à Jérusalem, l'Esprit parlait à des frères. Donc Dieu a un fonctionnement. Il ne peut pas te donner des missions, il n'a parlé qu'à toi seul. C'est impossible. Il a un fonctionnement de corps. Il y a un travail qu'il fait d'ensemble avec nous. Sinon, il y aura l'égoïsme entre nous. Sinon, chacun dira, je suis le plan, je suis le plan, je suis le plan. C'est le désordre. Dieu parle, c'est vrai, mais il parle à un ensemble pour l'individu. Mais tu prends ta décision parce que toi, tu es convaincu. Tu ne prends pas ta décision parce que Dieu a parlé à d'autres, mais tu prends ta décision parce que tu es convaincu, mais Dieu a confirmé à d'autres. Et là, tu es en sécurité parce que tu sais que Dieu n'a pas parlé qu'à toi, bien-aimé. Le plan de Dieu, c'est refuser d'être influencé par rapport au poids extérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donner des raisons. Je n'obéis pas. Je ne fais pas ceci. Dieu veut que j'aille à l'est. Je ne vais pas à l'est parce que un tel est contre moi là-bas. Je ne fais pas ceci parce qu'on ne m'a pas imposé les mains. Je ne fais pas cela. En quelque sorte, c'est défausser sur les autres. Tous ceux qui disent c'est les autres qui m'empêchent, ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Parce que le Seigneur a dit rien de mal ne peut vous atteindre. Je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions. Rien de mal ne peut vous atteindre. Donc, tout celui qui prétexte que s'il est gêné dans le plan de Dieu, c'est à cause d'un tel, c'est lui-même qui négocie pas sa communion avec Dieu comme il faut. Il y a des embêtements, on en disconvient pas. Mais à nous, à travers ces embêtements-là, rechercher Dieu pour qu'il nous en sorte vainqueur. C'est cela, bien-aimé. On n'en dit ce qu'on ne vient pas. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La Bible dit qu'aucune tentation ne nous est survenue qui ne soit au-dessus de nos forces. Dieu vient donner la force. Donc, y a les attaques qui viennent, ce sont des attaques permises par Dieu parce que Dieu a préparé quelque chose pour qu'on s'en sorte. On ne peut pas dire que tel bloque le plan de Dieu sur ma vie. C'est impossible. Ça voudrait dire que ce tel-là est plus fort que Dieu. Comme certains qui cherchent à chanter, à prêcher, à faire des choses, ils disent, mais les autorités me bloquent, mais comment elles vont te bloquer? Donc elles sont plus fortes que Dieu alors. C'est le refus du plan de Dieu, c'est tout. Dieu marche dans l'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Si tu as mis en toi que tu es un chantre, eh bien, sache qu'il t'utilisera comme cela, que quelqu'un veuille ou pas. Donc tu dois attendre. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 6, nous avons fait preuve de patience. Après tout, tu es le serviteur de Dieu, tu n'es pas ton serviteur. Attends que ton chef te mette à la place qu'il faut, parce que la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est le patron qui décide, qui est au ciel. Donc tout celui qui peut se plaindre, ah c'est les autres, il est dans l'erreur, il n'est pas dans le plan de Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, les autres ne peuvent pas t'empêcher d'avancer dans le plan de Dieu. Mais ils peuvent être utilisés par Dieu pour te laisser dans le plan de Dieu. Au lieu d'accepter, quand tu discernes qu'ils sont utilisés pour toi, on dit mais non, c'est les autres qui empêchent que j'aille en réalité dans tes propres objectifs à toi. C'est tout parce que les autres ne peuvent pas empêcher Dieu d'agir. Le plan de Dieu bien-aimé, c'est risquer sa vie. C'est pour clôturer bien-aimé. Esther a risqué sa vie. David a risqué sa vie en combattant Goliath. Les disciples ont risqué leur vie en prêchant Jésus-Christ. Moïse a risqué sa vie en allant affronter Pharaon. Le plan de Dieu nous amènera toujours à un moment à risquer notre vie. Pas forcément physiquement, mais on aura l'impression qu'on n'existe plus. On aura l'impression qu'on est diminué, humilié, rabaissé. On aura l'impression d'être trahi. Vous savez, Jésus a souffert à la croix, mais est-ce qu'il a souffert plus que par rapport à ce que Judas a fait, les disciples l'ont abandonné, je ne crois pas. Tout cela a été une grande souffrance. Mais ça, c'est des morts prévues par Dieu. Il faut l'accepter avec joie parce que ça contribue à notre perfectionnement. On ne peut pas entrer dans le plan de Dieu si on ne risque pas sa vie. Risquer sa vie, c'est-à-dire c'est s'engager dans une voie où tu sembles en échec, mais tu es conscient que c'est la voie de Dieu. Mais humainement, tu te vois en échec sur cette voie-là. Mais tu te dis, c'est le plan de Dieu. Je suis cette voie-là. Bien-aimé. David savait que c'était le plan de Dieu qu'il soit roi. Au moment où on le chassait, il pouvait se battre pour prendre la royauté par la force. Il pouvait même tuer Saül à deux reprises. Mais il ne l'a pas tué. Parce qu'il dit, c'est vrai, c'est le plan de Dieu que je sois roi, mais Dieu n'a pas dit que je tue le roi. Tuer le roi, c'est contraire à la parole de Dieu. Beaucoup disent c'est le plan de Dieu, mais en même temps, le comportement ne correspond pas à la parole. David a dit non. J'obéirai à la parole. Mais quand il décide d'obéir à la parole, bien-aimé, vous vous imaginez quelqu'un qui a une plus grande armée que toi. Il te cherche. Maintenant, toi, tu as l'occasion de le tuer avant que lui ne te tue. Tu ne le tues pas. Donc, tu risques ta vie. Donc, ça veut dire que tu lui donnes la capacité de venir encore te chercher pour te tuer. Mais David a dit, moi, je ne peux pas le tuer. Parce que c'est contraire à la parole. D'accord, c'est dans le plan de Dieu d'être roi, que je sois roi. Mais tuer cet homme, c'est contrevenir à la parole. Le plan de Dieu fonctionne avec la parole. Alors, je préfère risquer ma vie. Ne pas le tuer, mais être dans le plan de Dieu. Parce que j'aurai obéi à la parole. Et nous connaissons la suite. Qui est devenu roi? David. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu a laissé une marque dans la Bible. Il a dit, l'homme selon mon cœur, c'est David. Bien-aimé, cherche le plan de Dieu et reste-y. Que personne ne te sorte du plan de Dieu. N'accepte pas le divorce parce que la pression est forte. Le plan de Dieu, c'est le mariage jusqu'à la mort. Il y aura des amis qui vont conseiller, des pasteurs même qui vont te dire, ça arrive, nous sommes des humains, c'est faux. Le plan de Dieu, c'est le mariage jusqu'au bout. J'ai dit à un frère dont la femme est partie, j'ai dit frère, même si elle est partie, toi aime Dieu. Attache-toi au plan de Dieu. Garde l'alliance à ton doigt. N'enlève pas. Même si juridiquement, il y a des décisions qui ont été prises par les juges, ne casse pas. Toi, dis au Seigneur, elle reste ma femme, je suis attaché à ton plan. Et Dieu la ramènera. Bien-aimé, le plan de Dieu est plus beau que n'importe quel plan. Mais le plan du diable peut paraître attrayant à un moment donné parce que ça facilite les choses. Mais ça ne facilite que pour un temps. Après, ça tourne mal. On a vu ce que Michael Jackson a fini. Moi, quand j'étais petit, je pensais que Michael était éternel, quoi. Je pensais qu'il n'y aurait pas de meilleurs. Donc, c'était impossible de croire qu'il y ait une baisse même devant tes disques. Mais la réalité nous a rattrapés. On a vu ce qu'il est devenu. Des disques invendus, endettés. Il va au tribunal en pyjama, bien-aimé. Le plan de Dieu est le meilleur. Le reste ne peut que donner de l'attrait. Mais pour faciliter les choses, la facilité n'est pas forcément le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est la Bible. déterminé à être amour jusqu'au bout, déterminé à obéir à la parole jusqu'au bout. Ça, c'est le plan de Dieu. Même si on n'a pas vu notre avenir en télévision, mais aujourd'hui, nous voulons accomplir le plan de Dieu. Comment? En obéissant aujourd'hui. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Prions le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui encore, nous voulons demeurer dans ton plan, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ton plan. Le plan du monde est parfois facile. Ça n'impose pas de contraintes sur nous. Mentir peut paraître facile pour sauver l'honneur, sauver une réputation ou atteindre certains objectifs. On se dit, mais oui, mais un petit mensonge. Mais ce n'est pas ton plan, Seigneur. Et ça finit toujours mal. Divorcer, Seigneur, peut paraître faciliter les choses. Mais en réalité, ça nous sort de ton plan, Seigneur. Se fâcher, Seigneur, ça peut mettre la chair à l'aise. Mais en réalité, ça nous sort de ton plan, Seigneur. Parce que toi, tu as dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, Seigneur. Refuser l'autorité des humains que tu as établis sur nous, Seigneur, ça peut nous faciliter la tâche. Mais il est écrit, Seigneur, dans Luc 7, au verset 30, les pharisiens ont arrêté le plan de Dieu sur leur vie en refusant de se faire baptiser par Jean-Baptiste, Seigneur. Ils ont refusé l'autorité de Jean-Baptiste et ils sont sortis du plan que tu avais pour eux, Seigneur, d'être les bergers d'Israël. Ô Seigneur, le plan de Dieu, Seigneur, peut nous amener à risquer notre vie, comme David, qui pouvait tuer son ennemi, il ne l'a pas tué, en lui donnant la possibilité de venir encore l'attaquer lui. Il a préféré obéir à la parole qui dit qu'on ne touche pas loin de l'Éternel. Oh Seigneur, et ça peut paraître très difficile. Lorsque la maladie nous atteint, Seigneur, lorsqu'il y a des conflits dans la maison, Seigneur, des cousins, des cousines peuvent donner des conseils qui nous facilitent la tâche. Nous voulons rester dans ta parole, Seigneur. Et nous savons que tu nous donneras un avenir glorieux, solide, éternel. Nous voulons demeurer dans ton plan. C'est là que nous sommes en sécurité, Seigneur. Merci Seigneur de nous amener dans ton plan. Comme Paul, Seigneur, dans les jeûnes, les prières, les veilles, les séditions, les incompréhensions. Mais le plus important, Seigneur, c'est d'obéir à ta parole, d'obéir à ta voix, de communier dans la prière avec toi, Seigneur. Merci Seigneur d'agir, de nous aider à être humbles aujourd'hui pour demeurer dans le plan que tu as formé pour nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Tels que nous sommes, Seigneur. Prends-nous et fais que nous fassions ta volonté.